Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Salut tout le monde et bienvenue à cet autre épisode de Sortie de zone. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Merci d'être là en notre compagnie aussi. Après un beau week-end extérieur, un peu raté du côté de la Ligue nationale de hockey, un week-end aussi un peu raté du côté du Canadien de Montréal. On va parler de tous ces sujets à l'émission d'aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les collaborateurs pour ce podcast. Jérémy Rainville du 98.5 FM. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Simon-Olivier Lorange de La Presse. Salut Simon-Olivier.
Salut Jérémy.
Et Alexandre Pratt aussi. Salut Alex.
Bonjour à tous.
Alors les gars, on va commencer avec le Canadien. Veux, veux pas, le Canadien n'a récolté qu'un seul point ce week-end. On se retrouve avec deux victoires seulement dans les sept derniers matchs. Là, on s'en va dans le sens contraire de ce qu'on a vu au début de la saison. Commençons avec une appréciation générale. Quel est le... Non, mais s'il y avait une chose, chacun, on va identifier un point de quelque chose qui, selon nous, et le centre du problème. Jérémy, commence donc.
La désorganisation totale. Présentement, ce qu'on voit, c'est une désorganisation.
Système de jeu, là, tu parles. Là.
Non, l'application, la présence mentale des joueurs, la synergie entre les défenseurs et les attaquants, ça fonctionne pas présentement. Tout le monde essaie de trouver des solutions, mais de façon individuelle. Et tout le monde regarde tout le monde en disant, essaye donc de nous sauver, s'il vous plaît. T'sais. Fait que donc, moi, ce que je vois, je trouve ça décevant. Décevant, pas alarmant, parce que je pense que ça peut se corriger, puis je crois qu'ils vont arriver à corriger ça. Mais ce que je vois présentement, c'est un club qui... Ce qui me déçoit, c'est que c'est un club qui a eu 5 journées pour essayer de se replacer, pour essayer de mettre tout ça en place. On comprend que c'est une jeune équipe, pas dans l'âge, mais dans la formation de l'équipe, c'est une jeune équipe. Puis je peux comprendre que par moment, ça devient compliqué. Sauf qu'on a eu du temps pour placer le casse-tête. Et ça s'est pas fait contre Toronto. Quand même, c'est un meilleur match qu'on a vu contre Toronto dans cette défaite de samedi comparativement à la victoire. Mais ça a été difficile aussi contre les Sénateurs d'Ottawa. Ouais. Et pour moi, ça, je trouve ça décevant de voir ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont trouver des solutions? Je le souhaite, le plus rapidement possible.
Simon Olivier.
Ben là, Jérémy a fait un bon tour de roue, mais je vais quand même spécifier unité spéciale. Ça fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Au cours de cette séquence-là qui a commencé avec la défaite contre les Sénateurs à domicile il y a 2 semaines, c'est 7,1% d'avantage numérique, 27e dans la Ligue nationale, 75% des avantages numériques, 23e dans la Ligue nationale. C'est complètement à plat et depuis quelques jours, ça discute un peu que ça commence à recevoir des relents de l'année passée. Ben, l'année passée, c'est un refrain extrêmement bien connu, et même les années d'avant, mais les unités spéciales qui fonctionnent pas, et présentement, ben, ça fonctionne, mais pas du tout. Alors, ça, c'en est dans ce que Jérémy pointait comme les éléments à relancer, améliorer. C'est un quick fix pour parler français qui est essentiel.
Alex?
Ouais, moi, je pense que, comme Jérémy dit, il y a des problèmes d'exécution. Tu sais, principalement, le jeu de transition, ça va pas du tout. Tu sais, on voit beaucoup des défenseurs qui essayent, en bon français, de pincher. Et même Claude Julien l'a souligné hier puis aujourd'hui, puis ça fonctionne pas. T'sais, c'est pas le rôle de Ben Sherrod de foncer. Puis après ça, ce qui arrive, c'est que le jeu de position est tout mélangé.
C'est sûr.
T'sais, hier, là, sur le but gagnant, là, les 3 gars qui étaient sur la glace à 3-3, là, ils avaient aucune idée où être. Aucune idée. Les 3, ça regardait. Puis là, hey, Byron, t'sais, si on isole Paul Byron hier là, dans cette fin de présence, c'était épouvantable. Un chevreuil devant les phares. Mais c'est comme ça, à plusieurs reprises, les gars cherchent leur repère. Tu sais, il y a eu des changements de trio aussi récemment, là. Donc, la chimie n'a pas encore pris, mais les gars cherchent leur repère. Mais c'est pas juste chez les nouveaux trios. Tu sais, les défenseurs aussi, là, sont mal positionnés présentement ou font des jeux à haut risque qui rapportent peu. Et il y a vraiment... ils sont plus embourbés, en fait, que je pense qu'ils l'auraient été la semaine dernière.
Et Alex vient de parler de Ben Sherrod. Pour moi, là, Ben Sherrod illustre très bien ce que je disais en ouverture, c'est que Ben Sherrod veut tellement faire trop, et en le faisant trop, il fait mal en plus. Il fait mal à l'équipe parce que par moment il hésite, par moment il se porte à l'attaque quand c'est pas le temps d'aller à l'attaque. Simon Olivier a parlé du désavantage numérique. J'ai rarement vu un désavantage numérique être aussi passif que ça. C'est plus la mode d'être passif. À moins que tu joues contre Alexander Ovechkin, ça veut dire que tu vas prendre quelqu'un qui va toujours isoler Ovechkin, puis tu vas tricher. Ça veut dire que tu vas marcher en triangle plus quelqu'un qui couvre Ovechkin. Là, ouais. On marche en losange. On fait un losange. Un en haut, deux ses côtés, un en bas. Et c'est passif. On laisse tout le monde tourner alentour. On est passif pour couper les angles de passe en plein milieu du losange. On a vu d'ailleurs Austin Matthews marquer de cette façon-là avec une passe transversale. Écoute, là, présentement, c'est plus juste l'histoire de X et de O. C'est pas l'histoire de Claude Julien qui doit motiver ses troupes. Non. C'est l'histoire de gars qui sont juste déroutés. Et là, à un moment donné, il faut juste prendre une bonne respiration. OK, arrêtez les X, les O, arrêtez les iPads sur le banc. Arrêtez les iPads sur le banc. Là, on va juste jouer au hockey. Tu sais, on va faire ça basic. Là. Faites ça basic.
Non, mais quand j'ai entendu hier qu'après la deuxième période, les Sénateurs avaient 13 tirs à partir de l'enclave, le Canadien en avait 2. Pour moi, là, ça, là, c'est tout part de là. Tabarouette, si t'es pas capable de prendre des shots qui ont de l'allure dans des endroits dangereux, là, ben t'as beau tourner en rond toute la soirée, chercher, regarder tous les maudits iPads que tu veux, t'en marqueras pas de but.
Mais là, mais tu sais, Jérémy, je pense, mais je trouve que depuis le début de la saison, quand même, le Canadien attaquait beaucoup de l'enclave. Là, on a vu Anderson, on a vu Gallagher, Toffoli, ce sont des joueurs, ce sont même Kotkaniemi se tient beaucoup, beaucoup dans l'enclave. Là,
mais là, c'est 13-2 contre les Sénateurs. Non, mais honnêtement,
je pense que s'ils regardent des iPads, c'est plus pour le jeu de transition, là. T'sais, le positionnement, le jeu de transition, c'est ça qui fait défaut le présent.
Attends, Alex, je suis pas d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on regarde plus présentement, puis ça, on ne sait pas ce qu'ils regardent. Mais quand je vois trois gars du même trio qui regardent le même iPad, c'est parce qu'on est en train de regarder la chance offensive qu'on a ratée. Mais il est là le problème. T'sais, c'est pas une question de transition puis de dire faut le regarder comment on n'est pas arrivé à bien sortir la rondelle. Puis là, je vous le dis, là, moi, si vous me direz ce que vous en pensez. C'est 6 défenseurs qui n'arrachent présentement, OK? Puis qui sont pas capables, même Jeff Petrie, là, pas capable
Sept.
De... Ouais, c'est ça. 7 défenseurs qui n'arrachent, qui sont pas capables de prendre la rondelle, la transporter pour sortir du territoire, parce qu'on met beaucoup de pression sur eux, parce qu'on sent que le Canadien en arrache. Jumelé à des défenses, à des attaquants qui trichent pour s'en aller vers l'attaque, pour aller marquer des buts. Ça peut pas fonctionner. Ça s'étire, la défensive, l'attaque, c'est étiré, là. C'est comme un élastique qui va péter. Ça ne fonctionne pas.
Excuse-moi, je vais te laisser continuer.
Non, vas-y, continue, vas-y.
Ben, en fait, c'est assez inquiétant ce que tu dis, parce que, ben, en fait, c'est non seulement tu as raison, mais c'est exactement ce qu'on disait du Canadien l'année passée au cours de la première des deux séquences terribles de 8 défaites de suite. C'était ça, c'était les défenseurs qui essayaient de s'avancer, qui essayaient de faire le travail parce que ça marchait pas en avant, les avants qui trichaient, tâteurs, qui se faisaient prendre à répétition en zone adverse, les surnoms de l'autre côté, et c'est ce qui menait à défaite sur défaite sur défaite. Et là, présentement, on n'en est évidemment pas là, mais ça sent pas bon. Ben, il y a beaucoup de monde qui ont ce souvenir-là beaucoup. Là.
C'est sûr que...
Il y en a eu des échappés hier, là, quand même. Là. Il y en a eu beaucoup des échappés hier des Sénateurs. Là, ça, c'est un signe là, que le jeu de transition ou que l'écart dans le centre est trop grand. Que l'autre équipe profite là, de revirement.
Puis encore une fois, Jake Allen, merci à lui, parce que sinon, on n'est pas dans ce game-là. Presque.
Ah, il était solide.
Encore une fois, écoute, t'as deux arrêts sur échappés, une à la fin de la troisième, une en prolongation. Puis, tu sais, on parle de la prolongation, les gars. Bon, vous avez probablement vu qu'à un moment donné, KK rentre dans le poteau du filet. Mm-hmm. Là, il se relève, là, je suis comme, oh, moi, je pensais qu'il était blessé. Mais là, il continue tout de suite. Mais il reste sur la patinoire, difficile de changer en prolongation. Il avait de l'air complètement perdu. Il avait de l'air d'un gars qui avait pas sa tête. À un moment donné, je pense, c'est
Stroud. Ben, tout le monde, les autres aussi, avaient de l'air pas mal perdu.
Non, mais à un moment donné, Stroud-là rentre dans l'enclave, il se tasse pour le laisser rentrer. Je te dis, littéralement, là, il se tasse puis il dit rentre. Je sais pas si vous nous souvenez de la séquence. Puis quand Kachuk arrive, il a le puck, là, puis on voit dans sa face, hey, ils vont me laisser y aller.
Ça
hey, ils vont me laisser y aller. Hey, je suis rendu au filet. Personne s'en vient. C'était incroyable.
Non, c'était horrible. À 3 contre 3, là, c'était terrible.
Mais
comme.
Oui, vas-y,
c'est mon 3 contre 3, et la semaine passée, on avait eu un spectacle aussi désolant à 4 contre 4 contre les Maple Leafs. Quand Toronto a gagné à Montréal avant la semaine de congé, à 4 contre 4, les Leafs étaient tout seuls sur la glace. On dirait qu'on dès qu'il y a de l'espace, on sait pas quoi faire avec. Puis l'autre équipe prend un malin plaisir à occuper cet espace-là. Et hier, les Sénateurs, ben c'est ça. Comme vous l'avez dit, on dirait que Brady Kachuk comprenait pas ce qui lui arrivait. Comment ça se fait que personne venait sur lui. C'est assez surréel.
Moi, je vais vous dire, puis je sais pas ce que vous en pensez. Tu sais, ça fait trois fois que je vous le dis, parce que je veux pas avoir l'air du gars qui arrive avec des grosses solutions, là, mais en quelque part, il va falloir regarder du côté du Canadien. À un moment donné, tu sais, je sais que c'est cliché de dire revenez au jeu de base, mais un jeu de base, c'est donner de l'appui à ton porteur de la rondelle. Et c'est ce qu'on voit pas présentement, parce que là, on essaie de faire une passe à la ligne rouge, une passe à la deuxième ligne bleue, une passe déviée, le gars est à la ligne rouge, chip pour un autre. Non, fais ça simple. On peut-tu venir donner du support, exemple, si c'est ton joueur de centre qui sort avec la rondelle, on peut-tu avoir deux options proches, des passes plus courtes, arrêter des longues passes et plutôt se servir d'une construction qui est plus collective que le long jeu, le Hail Mary. Arrêtez, ça fonctionne pas. Là. Ça fonctionne pas pour le Canadien.
La trois zones, oui, c'est
exact,
ça
fonctionne
la
pas.
La passe en trois zones.
Exact.
Mais les gars, je sais pas si vous avez remarqué, puis je veux pas m'en prendre à Jonathan Drouin, mais je voudrais que vous me donniez votre opinion sur cette séquence-là, parce que moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Jamais, OK? Sur le deuxième but des Sénateurs, Drouin rentre dans la zone, OK? Il s'en va chercher le puck sur le bord de la bande, en territoire adverse, OK? Il est le dernier homme. Il y a personne entre lui puis le gardien, mais il y a une meute autour de lui. Il est pas tout seul, tu sais? Il fait une passe, part en arrière pour sortir le puck de la zone à qui, je ne sais pas. Finalement, les Sénateurs partent de l'autre bord, ils marquent un but. Moi, j'ai jamais vu ça. Un joueur qui est dans la zone adverse, qui est le dernier homme, puis plutôt, mettons que t'es brûlé, là, pitch là dans le fond, on retourne. Correct.
Je me souviens pas c'est à qui le défenseur qui
était
sur ouais.
Par en arrière. Il y a personne là, l'autre équipe s'en va.
Mais ça peut peut-être.
J'ai jamais vu ça.
Ça peut donner une bonne image à mon avis de la problématique des défenseurs. Tu sais, au hockey, on va souvent dire penser D-side, c'est mets-toi en position quand t'es pas en possession de la rondelle, d'être dans une position qui est défensive par rapport au positionnement de la rondelle. Mais là, c'est le défenseur, lui pense, oh, je vais aller chercher une rondelle libre, puis je vais être capable d'avancer en zone adverse, puis quitte son positionnement, ça devient compliqué. Tu sais, je pense que par moment, il va par réflexe, puis je veux pas défendre Drouin là-dessus là.
Non, mais
tu sais. Faut penser des sides peut-être un petit peu plus.
Non, mais là, c'est parce que quand tu fais des passes par en arrière de même, c'est parce que là, t'es rendu vraiment à tu sais plus ce que tu fais, là. T'sais, c'est
mais tu sais, les passes par en arrière, presque personne ne l'a souligné, mais tu sais, le jeu qui a mené au but gagnant des Sénateurs, c'est quand même Kotkaniemi, après sa très belle montée au filet, qui a tenté une passe vers son défenseur qui n'était pas là. Le défenseur était positionné de l'autre côté. Ça a mené à une échappée du joueur des Sénateurs qui sortait du banc. Après ça, le Canadien a pu toucher à la rondelle de la fin de la partie, là, tu sais. Donc, il y en a plusieurs là, des joueurs qui présentement. Tantôt, je parlais là, des chances à haut risque. Là, ben, c'est un petit peu ça qui se passe présentement chez le Canadien.
Ben, écoute, Kotkaniemi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, avait l'air d'un gars. Il avait l'air d'un gars vraiment pas là, là, psychologiquement. Je veux dire.
Ben, c'est un gars qui a bien joué relativement
oui, oui, oui.
quand même.
Non, là, non, mais sur cette séquence-là.
Dans les deux derniers games, mais,
il frappe le poteau, puis après ça. Il a plus de l'air à savoir qu'est-ce qu'il fait. T'sais, en tout cas, je sais pas, là, mais ça a été. C'était atroce. J'essaie de trouver la scène ici du but. Hey, Perry a scoré tout un but.
Les mains du dimanche!
Ah!
Ah, mais là, Philo, tu dois être content, c'était spectaculaire!
Incroyable!
Ah, là, t'es du mon Dieu!
Écoute!
Amène du popcorn, je regarde Corey Perry.
Ben, maudite affaire, oui. C'est ça, du hockey, maudite affaire. C'est ça qui compte, c'est ça que le monde veut le voir. C'est ça le moment dans le game où le monde s'est levé, ils ont eu du fun.
Ah maudite
affaire.
Bon.
C'est quoi l'affaire? C'est ça un problème avec le monde qui ont du fun?
Non, pas du tout. Non, mais là, c'était spectaculaire. Là.
Ben oui, c'était vraiment, écoute, superbe but de la part de Perry, puis il nous a donné de l'espoir. Mais c'est des jeux individuels. C'est ça le problème. C'est que c'est un jeu individuel, il transporte le puck, il s'en va de la mettre dedans lui-même. Mais dans le collectif, c'est pas ça, là. C'est ça le problème. C'est, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut pas toujours compter sur des gestes individuels comme ça pour nous sortir du trouble.
Là, attends, moi j'en pose une question.
Bah, vas-y, okay? Donc, là,
ouais, OK, je pose une question. Alex, je commence avec toi. C'était Claude Julien, tu fais quoi, là?
Avec.
Je sais pas.
Non, mais tu fais quoi,
parce que. Je suis Claude Julien, mais non, un quick fix, je pense que je changerais les duos de défenseurs, là, clairement. Ça fonctionne pas. T'sais, il y a très peu de choses aux défenseurs depuis le début de la saison. Je pense qu'il faut casser quelque chose d'autre. L'affaire de Charlotte Weber présentement, elle n'est pas productive. T'sais. Ça doit être séparé. Moi, je ramènerais Kulak dans l'alignement. Romanov, je comprends là, les fans qui s'excitent, mais ça reste un défenseur de 20 ans qui a peut-être besoin des fois d'aller voir des matchs en dehors de la patinoire, là, tu sais, puis je suis pas un fan de Victor Mété non plus, qui a pas très bien joué lui non plus hier.
Non.
Donc, je brasserais. Mon premier réflexe, ça serait de brasser la soupe chez les défenseurs.
On est en train de regarder la séquence ici avec Jérémy. Là, j'ai dit qu'il était le dernier homme. Il y avait un défenseur des Sénateurs entre Drouin et le filet. Mais reste que Drouin, il est sur le bord de la patinoire. Il est là. Il est en zone adverse. Il peut foncer vers le filet. Il peut s'en aller vers le coin. Il décide de faire une passe en retrait vers l'extérieur de la zone. Oh. Et ça crée une échappée.
Mais c'est quoi? Bon, moi, je regarde ça puis je me dis juste une chose. C'est fancy. C'est fancy. Tout est fancy présentement. Ouais. Toute la passe soulevée entre trois bâtons. Tu sais, quand on dit de fais le jeu le plus simple pour avoir un plus grand pourcentage d'efficacité, c'est pas ça qu'on fait présentement chez les Canadiens. On est fancy, mais c'est pas facile.
Mais tu sais, moi, qu'on soit fancy, quand le club est en avance, puis je sais que le Canadien évalue pas ses joueurs de la même façon, là, selon les séquences de jeu, là. Mais je pense que quand le club tire de l'arrière, je veux dire, tu sais, si tu perds 3-1, il faut que tu en prennes des chances.
C'est sûr.
Je suis prêt à vivre avec ce type de jeu à haut risque-là si tu sors de l'arrêt. Le problème, c'est si c'est égalité ou si tu mènes en fin de match de faire des jeux comme ça. T'sais, si c'est tu joues à 3 contre 3 puis tes défenseurs puis tu pars faire une montée à 1 contre 2, ça fonctionne pas. T'sais, ça, c'est un gros non. Là. Tes chances de marquer sont pratiquement nuls, puis tes chances de perdre la rondelle sont en haut de 60%.
Mais Alex,
c'est ça que le Canadien doit faire attention.
Le problème, là, c'est que hier, t'es en arrière 2-1, OK? En fin de deuxième. Là, je me suis dit, en troisième, écoute, ça leur prend un but. On va voir quelque chose.
Ouais.
Les minutes avançaient, on arrivait, il reste 10 minutes à la game. Hey, t'as besoin d'un but! Puis là, tu dis, OK.
Ouais, ils ont essayé des choses, là, quand même. Là.
Ouais. Je sais pas.
Ben, Perry, tu veux dire, c'est quand même...
Ben oui, c'est ça.
Quand même, puis Gallagher. Un contre deux ou trois au départ. Le Canadien a quand même bourdonné en troisième. Je trouve pas que ça a été sa pire période des deux dernières
parties. Plus souvent qu'autrement, c'était Gallagher en avant du net qui essayait des affaires. Il est proche du net, il a le puck, il shoot. Mais il faudrait qu'il dise à ses coéquipiers aussi, parce que c'est le seul qui le fait. Ben, je me trompe-tu, en tout cas.
C'est parce que Gallagher et Toffoli sur le même trio, c'est un petit peu particulier. C'est le fun de temps. Je veux dire, c'est le fun quand ça fonctionne. Puis comme on a vu Toffoli qui a encore marqué contre Toronto, mais c'est pas marqué contre Ottawa. Mais tu sais, c'est deux. D'abord, Toffoli est un ailier droit d'abord, même s'il y a du succès à gauche présentement. C'est deux gars qui ont du succès dans l'enclave. Tu sais, tantôt, quand Jérémy posait la question, qu'est-ce qu'on fait pour relancer l'équipe, je pense pas que Gallagher, Toffoli, nécessairement, c'est deux gars qui sont faits pour jouer ensemble.
D'accord.
Puis, je pense que c'est des rôles aussi à redéfinir, puis il y a peut-être des pions à déplacer de ce côté-là.
Ouais, mais tu sais, ils sont pas complémentaires. Si on reprend le début de la saison, là, il y avait Anderson, Toffoli, puis Gallagher sur trois trios différents. Pourquoi? Ce sont trois tireurs. C'est pas des gars qui passent beaucoup, là, tu sais. Mais si t'en mets deux sur le même trio, forcément, ils vont avoir moins d'efficacité. Puis, tu sais, hier, en troisième, il manquait quand même le meilleur passeur de l'équipe, qui est Jonathan Drouin, qui est quand même celui qui construit les jeux les plus spectaculaires. Donc,
est-ce qu'on a des nouvelles de Drouin? Les gars, est-ce qu'on
est en entraînement aujourd'hui?
Oui. OK, donc il devra pas avoir
de... Il va jouer, Julien a dit qu'il jouerait demain.
Parfait. Mais moi, là, je regarde, là, quand Toffoli est avec Dano et Gallagher, là, c'est pas trois marchands de vitesse, là. T'sais, on a beau dire que Gallagher est intense pour aller au filet, là, mais dans zone neutre, là, ça avance pas, l'histoire, là. Fait que donc, tu dis, OK, là, t'as besoin d'aller chercher un peu plus de rip. Est-ce que c'est pas le temps de ramener Tatar avec Dano et Gallagher? Regarde-moi, là, t'as ta chance, là. Là, tu reviens, là, on va avoir ta rapidité parce que c'est sa qualité première à Tatar, c'est, il est rapide. On veut ta rapidité. Retrouvez un peu d'étincelle que vous avez déjà amené. Puis, on est là, parce que sinon, ça avance pas le trio, là.
Tatar, hier, là, dans une game, t'as besoin d'un but, là. Si tu veux gagner, là, puis il joue 10 minutes quelques poussières, là. Je comprends pas. J'ai de la misère. Je sais pas.
Il garde des cartes, j'imagine, Claude Julien. Il peut pas tout faire en même temps.
Bon, écoute, là, il faut parler des maudites tablettes parce que moi, là, je suis en train de me fou avec ça, là. Parce que.
Mon Dieu.
Non, mais écoute. OK. On va vous faire une comparaison.
Il y a deux affaires qu'on est tannés. Okay. C'est le chandail bleu pis les tablettes, là. Bon. On en parle-tu des vraies affaires, là? Bon.
Non, mais les gars, écoute, là. Moi, là, j'essaie de réparer mon lave-vaisselle. Là, je suis pogné, je suis en dessous du lave-vaisselle. Là, la maudite vis, je sais pas où ce qu'elle va. Fait que je sors ma tablette, OK? Puis je check, là, si je pourrais pas trouver sur YouTube quelqu'un qui est en train de réparer le même maudit lave-vaisselle, il va me montrer où est-ce qu'elle va, la vis. Mais si je suis assis sur mon sofa en train de manger des chips et me gratter les foufounes, je peux bien sortir le maudit iPad puis checker sur YouTube comment l'arranger le lave-vaisselle, mais il s'arrangera pas plus. C'est parce que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'on regarde des stratégies. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis contre, hey, maudite affaire, patine vos nets, c'est pas compliqué. Commence par ça.
Je vais le faire avec toi, Jérémy. Tu sais, quand on voit, il reste 45 secondes au match, Et l'équipe est, retire le gardien, prend le temps mort, puis que je vois l'entraîneur sortir son tableau blanc et faire des barbeaux partout. Je suis pas sûr que je vois beaucoup plus quelque chose de constructif à ce moment-là que voir trois gars sur une tablette en train de focaliser de manière très précise sur l'erreur qu'ils viennent de faire pour justement se dire, bon, ben, la prochaine fois, ceci, cela. Fait que moi, honnêtement, je dors sur mes deux oreilles de voir les tablettes sur le banc. Je pense que c'est une évolution naturelle des choses. Puis
Simon Olivier, je veux juste ajouter quelque chose à ce que tu dis. T'sais. Quand le coach, en fin de match, sort son tableau, il refait les mêmes maudits dessins que tout le monde a vu depuis 20 ans. Puis tout le monde fait comme si c'était à découverte. Ah ouais, le gars va aller en arrière. Toi, tu vas aller au filet. Ah, OK.
OK, les gars, il reste 3 secondes.
Je pense que c'est correct. On comprend comment ça
va. Il reste 3 secondes au match. Toi, tu vas te placer là. Tu vas faire un tourbillon par ici. Le puck va s'en venir.
Toi, tu gagnes.
Je l'aurai jamais le puck là, en 3 secondes. Là,
non, mais tu casses le face-off, puis là, toi, tu prends la rondelle, puis finalement, le gars gagne pas à mise en jeu. Ça s'arrête là.
Pouet. Là, on a, en tout cas. Bon, c'est ça. Mais je trouve que ça commence à devenir un peu exagéré.
Ben, j'ai quelque chose à dire là-dessus, par contre. Moi, j'ai écouté un commentaire de Guy Boucher sur les ondes d'RDS. Ouais. Okay? Puis Guy Boucher parlait de ça. Pendant le match, tu sais, il y a l'émission d'un autre angle, puis Guy Boucher était là, puis on parlait des tablettes. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux en fonction des tablettes. Ouais. Et il a amené un commentaire que j'ai trouvé intéressant. Il a dit, par moment, faire de la micro-analyse, c'est peut-être pas la meilleure chose. Il dit, ça prend un petit peu plus d'émotion et l'émotion se fait en embarquant d'un certain tempo sur le match.
D'accord.
Et non pas en voulant suranalyser une opportunité que tu as pu rater, que tu pourrais avoir.
Hey.
Je pense que dans le moment qu'on vit présentement, on manque beaucoup d'émotions, on manque beaucoup d'implications. Fait qu'il faudrait peut-être un peu lâcher la tablette puis commencer à jouer sa
partie. Ouais, d'accord avec
toi. Mais tu sais, moi, au début de l'année, là, les joueurs du Canadien regardaient la tablette là aussi, puis il n'y en avait pas de problème.
Ah non, mais c'est sûr, ben oui.
Quand le Canadien gagnait, personne ne le soulignait, puis il y a des équipes qui gagnent, Tampa Bay et compagnie, puis il n'y a aucun problème avec la tablette. Moi, je pense pas que la tablette soit un problème. C'est un outil technologique intéressant, je veux dire, contemporain. C'est utilisé dans d'autres sports aussi.
C'est comme le gars, vraiment, il s'en va sur sa tablette pour se commander une bière, puis le dépanneur est en face de la rue. Là. Vas-y au dépanneur, lâche la maudite tablette.
Non, mais même, à la limite, je trouve que de s'opposer à ça... Il y a quelque chose d'un peu réactionnaire là, dans s'opposer à ce progrès-là de façon générale. Moi, je trouve que tant mieux, je veux dire, s'ils ont plus d'outils qu'ils n'avaient il y a 20 ans pour mieux comprendre la game, j'ai aucun problème avec ça.
Alex, t'es une meilleure équipe que les Sénateurs. C'est quoi la maudite stratégie que tu cherches? Mets la maudite pédale au fond puis tu vas y battre 7 fois sur 10. Ben, c'est ça. Ça serait
vrai tout le temps. Je veux dire, ça reste une généralité. T'sais, s'ils peuvent faire des... T'sais, justement, j'entends ce que Guy Boucher dit puis je pense qu'il y a du vrai là-dedans aussi qu'à un moment donné, quand le fameux cliché, faut penser moins, mais disons qu'en regardant la tablette, ça contribue pas à penser moins. Là. Ça contribue au contraire, justement, à peut-être suranalysé, mais tu sais, s'il peut y avoir une correction rapide sur une lacune, je vois pas pourquoi ils s'en priveraient s'ils ont les outils à leur poids.
On le sait, les gars, là, sur une patinoire de hockey dans la Ligue nationale, n'importe qui peut battre n'importe qui, puis le club qui se présente pour jouer, là, 9 fois sur 10, gagne la game.
Exact. Mais le point que je veux amener, moi non plus, je suis pas contre l'utilisation de la tablette.
Mais non,
parce
moi
que,
non plus.
Je pense qu'Alexandre l'a bien mentionné, c'est un moyen technologique important que je suis convaincu que plein de monde qui aurait voulu l'avoir avant si ça avait été là. On le fait au football, on le fait dans les autres sports. Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose présentement qui est importante de réaliser, c'est que tu as besoin d'avoir des victoires. Parce que les points que tu donnes directement, peut-être pas aux Sénateurs, là, mais les points que tu donnes à Toronto, ben, c'est des points qui sont enlevés à toi-même pour participer aux séries de fin de saison. Puis là, t'as besoin de passion, t'as besoin d'implication, d'émotion. Fait que donc, priorité numéro un, c'est le 2 points.
Bon, les gars, on va faire une petite pause parce qu'on s'en va vers les sujets de la Ligue nationale dans quelques instants. Vous allez voir, il y en a des bons cette fois-ci.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866 appel. Ensemble, tissons l'espoir.
Alors, nous voilà de retour pour le segment ailleurs dans la Ligue nationale. Les gars, il y a un dossier qui est tombé ce matin, un dossier pas le fun, là, on va se le dire, c'est pas le genre d'affaires auquel On a du plaisir à discuter de ça, mais l'attaquant des Rangers, Artemi Panarin, a décidé de prendre une pause du hockey présentement. Il a été accusé d'avoir frappé une jeune fille de 18 ans en Russie. C'est des événements qui remontent à une dizaine d'années, 2011. Son ancien entraîneur, Vityaz Chekhov, a raconté à un média que Panarin avait frappé avec plusieurs coups une femme dans une boîte de nuit, je crois. Il aurait ensuite payé 40 000 $ pour faire étouffer l'histoire, sauf que cette histoire-là prend d'autres tangentes politiques même, puisque Panarin est avoué à plusieurs reprises être contre Vladimir Poutine. Il a partagé ses pensées sur les médias sociaux. Ça a fait réagir et tout ça. Il y en a qui pensent que c'est un coup monté. D'ailleurs, les Rangers ont quand même appuyé leur joueur aujourd'hui en disant on est derrière notre joueur, il va prendre sa pause puis tout ça, on va évaluer le dossier. Mais je pense que si on était convaincu que c'est quelque chose qui avait peut-être eu lieu, je pense pas que l'organisation aurait réagi de cette façon-là, mais une histoire très, très bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
Ben, en fait, ce qui est embêtant, c'est la nature de l'accusation, dans la mesure où on peut pas personne dire ben voyons donc c'est pas arrivé c'est un
non on le sait pas
c'est une construction en fait on le sait pas puis je lisais sur Twitter un journaliste aujourd'hui un journaliste que c'est à l'États-Unis qui disait tu sais c'est une information qui se vérifie en Lettonie où c'est arrivé si c'est vrai qu'il y a eu une arrestation c'est enregistré en quelque part là fait que cette vérification là malheureusement j'ai pas le pouvoir de la faire ici maintenant mais elle se fait. Cependant, tout le reste du contexte est effectivement extrêmement suspect. Puis, ce qui est intéressant, c'est à qui a parlé Andrei Nazarov. C'est pas clair à quel média et à quel moment. J'ai commencé à chercher ça cet après-midi et c'est beaucoup un média qui en cite un autre, qui en cite un autre, qui en cite un autre. Puis finalement, la nouvelle est assez floue. Puis c'est, tu sais, puis avec Nazarov qui est un pro-Poutine. Affirmé qu'il a déjà dit que les joueurs qui critiquaient la Russie devraient aller en prison, qui est un loose cannon, hein, comme il a été décrit un peu aujourd'hui, avec les médias russes qui sont reconnus pour être certains médias russes qui sont reconnus pour être très proches du pouvoir, avec l'agenda politique de Panarin, disons que je suis un peu surpris de voir le support aussi indéfectible des Rangers vu la nature de l'accusation. Mais selon moi, ça va mourir rapidement étant donné le contexte bien trop nébuleux et politisé de l'histoire.
Ouais.
Écoute. Ben, sans commenter directement là, le cas de Panarin, je veux dire qu'on n'a pas d'accès à des données ou rien, mais je veux dire, on regarde juste ce que le régime de Poutine a fait depuis 10 ans, notamment avec les opposants, notamment avec les journalistes. Je veux dire, c'est quand même un régime qui est allé assassiner des citoyens russes dans d'autres pays, là. Je veux dire, puis qui a essayé d'empoisonner le principal opposant à Vladimir Poutine. Tu sais, il y a quand même une purge en Russie chez les opposants à Poutine. Panarin en est un. Tu sais, donc, c'est sûr que ça teinte tout ce dossier-là, que l'accusation soit fondée ou pas. Ça s'inscrit quand même dans un contexte où le régime clairement est à la recherche des opposants. Ouais.
Mais Poutine était clair hein, à propos de l'empoisonnement. Il dit, si ça avait été nous autres qui l'avaient empoisonné, il serait mort. Donc, c'est pas nous autres qui a fait ça.
Il y a ça
en conférence de presse. C'est assez incroyable quand même.
Ça, c'est excellent. Bon, on va parler de choses un peu plus positives. Écoutez, on espérait tous un beau et grand week-end pour la Ligue nationale du côté de Lake Tahoe. Je pense qu'au niveau des images, on a tous vu ce que ça a donné pour ce qu'on a été capable de voir, parce que malheureusement, on a déplacé les matchs en soirée et on n'avait pas exactement la même vision et tout ça. Écoute, les images étaient incroyables. Je pense que c'est un projet à refaire ce week-end à l'extérieur, à Lake Tahoe. Mais tu sais, si tu veux faire des matchs à l'extérieur, tu veux que ça se passe comme il faut, mais tu choisis Nevada comme état pour t'installer. Il y a tellement d'autres endroits où tu aurais pu te mettre, où tu aurais eu peut-être une meilleure... plus de sécurité.
On a fait quand même des projets assez osés du côté de la Ligue nationale de hockey en jouant entre autres en Californie. Là, puis pendant le match, je suis allé voir la température. On était à -2 quand même par moment. Fait que donc, moi, je... c'est sûr que le rayon, les rayons de soleil qui plombaient sur la patinoire, c'est peut-être l'heure à laquelle on a fait ça. On a voulu faire ça d'une façon où ce que ça soit qu'on puisse profiter du décor et du match. Le soir, premièrement, le lendemain, lorsqu'il y a eu le match entre les Bruins et les Flyers, on a retardé la rencontre. Ben, on l'a mis un petit peu plus tard. C'était aussi sublime, puis je pense qu'on a eu zéro problème sur la qualité de glace comparativement à ce qu'on a eu la première journée.
Mais si les images sont pas pareilles le jour puis le soir, tu sais, je veux dire,
non, mais c'était magnifique hier soir là.
Ah oui. Ben oui, c'est beau. Surtout la première période. La première période, c'était incroyable.
Non, mais en plus, là, je sais pas si, moi, j'ai regardé le match à minuit, là, parce qu'ils ont remis le match à minuit. Oui, moi, je suis impressionné de voir comment ils ont été capables d'aller chercher rapidement une qualité d'éclairage pour un match extérieur comme ça. Puis de faire en sorte qu'on soit capable d'avoir une bonne qualité. Tu sais, j'étais pas sur la patinoire, je peux pas te dire s'il y avait, si c'était mal placé, s'il y avait des ombrages. Mais clairement, j'ai été impressionné par ça. Je pense juste que, écoute, je sais pas s'il y a un problème de compresseur en dessous de la glace, j'ai aucune idée, mais je trouve ça un peu illogique quand il fait moins 2 de pas être capable d'avoir une bonne qualité de glace.
T'es pas dans un stade, hein? T'as pas tous les équipements que t'as besoin à proximité, donc...
Le prochain coup, amène un camion plus, mais quand...
Le Canadien a des patinoires partout en ville, là, je veux dire, des patinoires de
la moitié du temps,
quand Wes McCauley lui-même plante en pleine face, en plein centre de la glace, là, ça fait OK, là, je pense qu'on va arrêter.
Non, mais écoute, je suis sûr que ça fait très mal à NBC, parce qu'on misait beaucoup là-dessus, on voulait passer un beau week-end, là, des matchs remis à minuit le soir, puis tout ça, c'est vraiment, vraiment pas idéal. Mais moi, le début du match, tu sais, sur le premier but de l'Avalanche, là...
T'es-tu beau, chandail?
Ben, écoute, le chandail était beau. L'ombrage, je sais pas si c'était la lumière naturelle ou si c'était le soleil, mais l'ombrage des joueurs sur la patinoire... J'ai eu une vision de quand j'étais jeune puis qu'on jouait sa patinoire puis tu voyais le gars s'en venir en arrière, tu l'entendais avec ses patins, mais tu voyais l'ombre. Tu savais qu'il était proche, tu sais. Ça c'est des choses qu'on, tu sais, ça existe plus.
Moi je trouve que techniquement c'était vraiment spectaculaire. Honnêtement, j'ai trouvé que techniquement c'était le plus beau, surtout le match d'hier soir là au coucher de soleil. Je trouvais que techniquement c'est télévisuellement en fait c'était le plus beau des spectacles extérieurs. Les matchs dans les stades, c'est loin. Il y a comme un gros vacuum autour du terrain où t'as pas l'impression qu'il se passe de quoi. T'entends pas vraiment la foule. Mais hier, la caméra était très très proche, là, je veux dire, de l'action. Ouais. Même je trouvais que la patinoire était petite, vu d'à côté. Les plans de caméra étaient spectaculaires quand on donnait là, sur le coucher de soleil avec les montagnes en arrière puis le lac sur le premier but des Bruins. C'est magique. Il faut qu'ils recréent ça. T'sais, pas au Lake Tahoe, je pense qu'on l'a fait. Là. Mais tu sais, j'imagine aller à Yellowstone ou des... Peut-être qu'à Yellowstone, il y a des lois de préservation, mais ça serait incroyable. Pareil, là, je veux dire, ça serait complètement débile de faire des choses comme ça.
Pierre Lebrun parlait de Lake Louise, peut-être. On regardait ce côté canadien. Oui, là, il y a des possibilités,
je pense qu'il faut juste choisir un endroit où on a plus de chances d'avoir la météo de notre côté. Mais l'idée était très bonne. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Non, mais tu sais, quand on passe sur le canal rideau, là, quelque chose de même, ça pourrait être devant... devant le Parlement devant l'Assemblée nationale.
Non, mais tu sais, quand tu dis, là, ils sont dans des stades, des fois, ils sont dans des stades de baseball, tu sais, puis là, t'as la patinoire au centre, mais, tu sais, il y a beaucoup d'espace vide et tout ça. Faudrait qu'ils fassent comme on faisait nous autres dans le temps. La patinoire est triangulaire, pas trop. On met un net d'un bord, un net de l'autre. tu joues tout le terrain. Ah ouais, let's go.
Hey, ça, c'est spectaculaire.
Ça serait incroyable.
Mais un truc qui pourrait être cool à Montréal, puis je pense pas qu'ils vont le faire, mais il y a un nouveau, il y a un nouvel amphithéâtre, en fait, à l'île Sainte-Hélène. Je dirais qu'on sort, là, de la station Sainte-Hélène, Jean-Drapeau. C'est comme un genre de petite montagne, mais qui peut accueillir 50 000 personnes quand même. C'est juste d'un côté, mais en bas, il y a comme une surface plane. C'est là que sont les spectacles de musique au Chaga, par exemple. Et en arrière, tu as toute la ville de Montréal. C'est quand même un plan assez spectaculaire. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire avec ça.
Ici, tu as toujours le risque, par contre, qu'il fasse moins 26. C'est juste ça le problème. Mais bon,
regarde. Je pense que ce serait plus facile à gérer un moins 26 que des rayons de soleil. Parce que, ça fait beaucoup de neige sur la glace, par exemple. Mais je pense que c'est un plus heureux problème de passer à gratte deux fois de plus par période. De commencer à avoir la glace qui fond puis de reporter ton match à 9h heure locale.
Bon, on revient un petit peu au hockey, les gars. Je pensais à ça ce week-end, là, puis parce que, tu sais, on n'en a jamais vraiment parlé réellement, mais on regarde les Maple Leafs aller. Et là j'ai eu une image d'Austin Matthews avec la coupe au bout des bras. Puis c'était comme, non, c'est pas vrai, mais je pense que les Maple Leafs cette année pourraient, gagner la Coupe pour la première fois depuis 1967. Est-ce que je me trompe? Parce que même en 93, quand ils se rendent en demi-finale, ils se font sortir par les Kings, il n'y avait pas le genre de, excusez l'expression, firepower qu'ils ont aujourd'hui.
Non, mais c'était tout un club de hockey.
Oui, oui, c'est un très bon...
Pat Burns qui était là, écoute, ça jouait du gros hockey.
Absolument.
Moi, j'y crois pas.
Non?
Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est rempli de talent, ça déborde, ça explose le talent. Tu sais, là, Austin Matthews, Mitch Marner, présentement, ils sont vraiment d'une classe à part. C'est difficile. On sent Austin Matthews impliqué comme il ne l'a jamais été depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey. Je suis pas convaincu qu'on sera capable de maintenir le tempo. Je suis pas convaincu de ce club-là au grand complet. Puis est-ce que c'est parce que moi, Toronto, je regarde tout le temps un peu avec le coin de l'œil en disant c'est Toronto. Mais j'ai un doute. Moi, j'ai un doute. Je pense qu'ils pourraient aussi bien performer que Tampa Bay avait performé. Souviens-toi l'année où ils ont tout dominé puis ils sont fait sortir en 4.
En 4.
Tu sais, je vois pas ce club-là aller jusqu'au bout parce que dans les séries, ça prend autre chose que juste avoir du talent.
Ouais, t'as raison. Mais écoute. La façon dont ils sont partis présentement, ouf.
Je suis 100% d'accord. Ça, je veux dire, tout fonctionne présentement à Toronto. Fait que ça, c'est indéniable. Mais je peux pas m'empêcher de croire que leur manque de profondeur en attaque, mais là, présentement, à l'attaque, tout fonctionne. Et surtout, en défense, les rattrapera pas. Tu sais, oui, Morgan Riley, oui, Jake Muzzin, qui par ailleurs est blessé. Mais tu sais, après ça, là, quand on pense à Justin Hall, tu sais, même, bon, TJ Brody, c'est une amélioration quand même, mais tu sais, là, il y a le Finlandais Lekkonen, tu sais, Bogosian, je pense que le meilleur est derrière lui. Tu sais, on essaye des choses, puis Frédéric Anderson, c'est sa dernière année de contrat, fait que ça, présentement, ça va bien pour lui, mais ça peut s'effondrer à n'importe quel moment, l'histoire nous l'a appris, particulièrement en série. Fait que je pense que le format de la saison 21 les aide, dans mesure où, si c'est la meilleure équipe au Canada, ben, ils sont susceptibles de se retrouver dans le carré d'as, mais moi, je vois pas la construction d'une équipe championne de la Coupe Stanley présentement, à moins qu'ils fassent des transactions.
T'sais, oublions pas une chose, hein, la division canadienne, moi, elle me semble vraiment plus faible que les autres divisions. Puis, ils ont déjà affronté 5 fois les Sénateurs, puis 3 fois les Canucks. T'sais, les Canucks sont vraiment pourris, là. Fait que, c'est quand même 8 matchs, là, contre 2 clubs extrêmement faibles. Peut-être que t'en fais 2 des 3 ou 4 pires clubs de la Ligue aussi.
En tout cas, les Sénateurs, j'ai regardé aller contre le Canadien, on va pas te laisser moi avec ça.
Les Sénateurs, ils ont quand même remonté un 5-1.
Ils ont battu 2 fois Toronto.
C'est vrai. 6-5, ouais. On s'en souvient la semaine dernière. Bon, les gars, on fait une petite pause parce que tout de suite après ça, on va prendre des questions du public. On en a 4 cette semaine.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Alors, nous voilà de retour pour notre section ou segment questions du public. Alors, nous en avons 4 cette semaine, étant donné que votre patron, Jean-François Tremblay, m'en a envoyé une 4e et il insistait pour qu'elle fasse partie de l'émission d'aujourd'hui. Donc, ça va être la 4e. On va s'y rendre dans quelques instants. Alors, première question de Stéphane Bois-Alto. Avec la situation en Arizona, pourquoi est-ce que la Ligue s'entête à conserver cette franchise en place? Tout le monde est perdant dans cette situation. Si la LNH souhaite vraiment garder une franchise dans le Sud, pourquoi pas à Houston? Il y a 6 millions d'habitants. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, là, il y a eu un texte dans The Athletic la semaine dernière mettant en lumière vraiment toutes les difficultés dans la gestion de cette équipe-là. Et là, je recule pas à il y a 10 ou 15 ans, là, parce qu'il y en a eu de la mauvaise gestion pendant longtemps, mais on parle de l'administration qui est en place présentement, qui n'y est que depuis quelques années seulement. J'en ai parlé un petit peu avec Ray Lalonde ce week-end aux amateurs de sport week-end. Et moi, l'affaire, les gars, là-dedans, c'est que, tu sais, comme bien des franchises qui ont fini par déménager, là, quand là, c'est du négatif par-dessus du négatif, par-dessus du négatif, par-dessus du négatif, pour toutes les raisons que vous connaissez, que ce soit à cause de la gestion, de l'organisation, que ce soit des éléments externes, que ce soit un peu de la malchance, que ce soit des erreurs commises, à un moment donné, là, une franchise a besoin d'un nouveau départ. qui peut régler des choses. Puis moi, je suis pas en désaccord avec Stéphane ici. Je comprends que le Phoenix est un gros marché de télévision. Atlanta aussi est un gros marché de télévision pour la Ligue nationale. Et finalement, ils ont tiré la plug. Mais je pense pas que la Ligue nationale serait aussi perdant que ça de s'en aller à Houston. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi, je pense que je pense pas que ce serait les Coyotes qui déménageraient nécessairement là, à Houston. Je pense qu'il y a des concessions qui sont dans un plus piteux état, notamment les Panthers. T'sais, Phoenix, c'est un gros marché là, quand même. C'est 2,1 million de foyers avec un téléviseur. C'est gigantesque. Au niveau de la télé, c'est le 11e plus gros marché aux États-Unis. C'est le seul club aussi dans cette région-là. Et oublions pas une chose, hein, l'Arizona, c'est un peu comme la Floride des gens de l'Ouest canadien. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'Albertains, de gens de la Colombie-Britannique qui vont là aussi en hiver. Et je pense que en fait, à tout avoir, la Ligue nationale ajouterait une franchise à Houston plutôt que de déménager une franchise de Phoenix vers Houston. Moi, je pense que la franchise est là pour durer. C'est un club qui est extrêmement mal géré. Là, puis on voit ça. Là. Il y en a toujours deux ou trois canards boiteux dans chaque ligue. Ça, c'est celui de la Ligue nationale. Mais je suis convaincu que Gary Bettman va essayer de conserver la franchise en Arizona. T'sais, juste une chose, là, mais l'Arizona, c'est vraiment un État qui croit, là, dans le sens où il y a de plus en plus de monde là, que ça va en Arizona. Là.
C'est vrai.
Donc, je vois pas le monde qui manque. La Ligue nationale s'est privée de ce marché-là.
C'est pas le monde qui manque. C'est l'intérêt pour un club qui, depuis des années, piétine et continue de faire des erreurs.
Mais tu sais, Jérémy, moi, je suis déjà allé là, à Phoenix couvrir les Coyotes, là. Pour te rendre à l'aréna, là, c'est long en temps.
Ben oui, c'est 40 minutes.
C'est comme aller à Vaudreuil, mettons, à partir du centre-ville de Montréal. C'est loin.
C'est pas brillant. C'est pas
brillant. Le fait que les gens, c'est que ceci alimente cela. C'est que si la franchise est mal gérée, la franchise est une des fameuses équipes à budget qui, année après année, ben là, peut-être pas ces toutes dernières années, mais tu sais, gardait sa masse salariale plus basse parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent disponible. Et c'était un des plans, justement, de l'actuel propriétaire, a-t-on appris dans le reportage, pour relancer l'organisation, ce qui n'est pas nécessairement le meilleur plan. Tu sais, si à un moment donné, l'équipe gagne pas, l'équipe est mal gérée, c'est pas attrayant pour le public.
C'est comme si
ce marché-là avait jamais donné la chance à son public de les rencontrer. Je pense pas que ça va jamais arriver, mais c'est ça. On n'a pas mis, en tout cas, on n'a pas réuni les conditions gagnantes, mettons.
Écoute, ça va penser aux expos, tu sais, d'autres, la malchance chez les propriétaires. On a eu Claude Beauchu, puis après ça, Jeffrey Loria. On a eu toutes des champions. En tout cas, il y en a toujours des canards boiteux, comme dirait l'autre. Donc, autre question maintenant, celle de Peter Galanopoulos. Question pour l'émission d'aujourd'hui, les gars. Si c'était à refaire, est-ce que tu repêches Kotkaniemi ou Tkachuk? Bonne émission.
Je peux y aller là-dessus, moi, s'il vous plaît?
Ben, moi,
je vais aller aux toilettes, moi. Okay?
Non, mais les gars, si jamais, si on recule de v'là 3 ans, l'année de repêchage de Kotkaniemi et de Tkachuk, il y a personne v'là 3 ans qui parlait chez les Canadiens que, oups, c'est cette année, là. Mon objectif, Marc Bergevin, il disait pas, mon objectif, là, j'ai changé chez Weber, c'est d'amener chez Weber. Mon deuxième objectif, c'est de remporter la Coupe Stanley. T'sais, c'était pas clair comme ça. Là. C'était un long processus. Il faut être calme. C'est un bon jeune joueur. C'est un joueur de centre. On a besoin de joueurs de centre puis on est prêt à être patient. Là, hop, pandémie arrive et l'objectif change complètement. Là, l'objectif, c'est on gagne right now. Fait que donc, si il y a 3 ans, l'objectif avait été on gagne right now, honnêtement, c'est Tkachuk que tu repêches. C'est Tkachuk que tu repêches, tu enlèves un ailier que t'es là, tu peux enlever un Tatar qui est à quoi? 4,4 millions. T'es capable d'aller chercher un joueur de centre qui peut être meilleur.
Repêches le meilleur, peu importe, non?
Non, parce que là, on avait des objectifs de développement à moyen et à long terme. On visait pas le même succès à court terme qu'on le vise présentement. Fait que si le repêchage était aujourd'hui, je pense que moi, le Canadien irait du côté de Tkachuk présentement.
J'ai de la misère à suivre un peu la logique, mais moi, j'étais un fan de Keith Tkachuk. Fait que j'étais vendu déjà. Je voulais Tkachuk, juste à cause de son père. Mais bon, fait que je te dise. Vous autres, les gars?
Moi, je suis d'accord totalement. Ouais, vas-y, Simon.
Ben, en fait, c'est que je rejoins un peu Jérémy dans le sens où aujourd'hui, si on repêche, ben, c'est sûr, je veux dire, il n'y a pas de doute dans l'esprit de personne que quand on regarde les deux joueurs ici et maintenant, ben,
Brady Tkachuk est un meilleur choix dans la mesure où c'est un joueur qui est plus mature, qui est plus complet, qui apporte, tu sais, j'ai l'impression en plus qu'il sort son meilleur hockey contre le Canadien. Je l'ai dans mon pool, fait que tu sais, je dis tout le monde aime Brady Tkachuk, là, tu sais, il y a pas, et c'est pas ça.
Ben, tout le monde pas tant, là.
Pardon?
J'ai dit pas tant, là, tout le monde, hein. Il te met le commode, ça a de l'air.
C'est sûr que là, après la game d'hier, c'est ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour ce qu'il est comme joueur de hockey, je pense que les partisans des 31 équipes, les 30 autres équipes le voudraient dans leur équipe. Cependant, là où je rejoins Jérémy, c'est que en 2018, ben, c'était pas ça. Fait que tu sais, si c'était à refaire, ben, avec les besoins et le contexte de 2018, peut-être que Kotkaniemi resterait la bonne décision à ce moment-là, mais c'est sûr que si on se pose la question aujourd'hui, c'est Tkachuk. Puis si l'année prochaine Kotkaniemi explose, bon là tout le monde va dire ah ben bravo, c'est le bon choix, c'est Kotkaniemi. Fait que c'est un peu biaisé, mais je vais passer la parole à Alexandre, je pense.
Ben moi je trouve que c'est exactement comme Jérémy là, t'as dit tantôt. Le plan du Canadien, c'est que Kotkaniemi arrive à maturité à 22 ou 23 ans. Ça, c'était le temps quand ils l'ont repêché. Puis même si on regarde historiquement, les centres de son gabarit dans la Ligue nationale explosent à 22 ans. Donc, ça serait dans 2 ans. Mais dans 2 ans, il va quand même être à la 5e année de son contrat. Et sa 5e année, en fait, sous contrat. Puis il va vraiment approcher l'autonomie. Tu sais, à un moment donné, c'est beau de dire que Kotkaniemi est jeune. C'est tout à fait vrai. Mais il faut aussi compter ça en temps qu'il reste avant qu'il atteigne son autonomie complète. Alors que ce sera plus évident que le Canadien va nécessairement être capable de le garder sous contrat. Là. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, il se mette vraiment à éclore. Si c'est dans 2 ans, ben ça sera dans 2 ans. Mais clairement, pour moi, Brady Tkachuk est déjà au niveau d'où le Canadien espère Kotkaniemi dans 2 ans. Fait que sur le long terme, ça sera peut-être le bon choix d'avoir pris Kotkaniemi, mais tu sais, sur un horizon de 2 ou 3, même 3 ans, je pense que Tkachuk va être meilleur pour les
en
deux.
En tout cas, potes, écoute, si je veux dire, si vraiment on pensait que Tkachuk était meilleur, mais on s'est dit, oh, on va prendre Kéké, ben, ça va prendre plus de temps dans notre affaire, ça va. Écoute, si c'est vraiment ça, je t'en sommeille, je tombe en bas de ma chaise.
J'ai pas de misère à le croire, par exemple. Là, c'est clairement, quand ils l'ont pris, là, c'était en anglais high risk, high reward. Là. Il y avait personne qu'il prévoyait aussi haut. Donc, il savait qu'il prenait un risque, mais il disait, on a le temps de le développer. Là.
Bon, faut pas oublier que Suzuki est pas dans le portrait quand il repêche, là. Donc, quand ils vont chercher Kotkaniemi, Suzuki est pas là. Donc, le portrait.
T'as besoin de joueurs de sang. Ouais, t'avais besoin de joueurs de sang.
Les besoins que, du moment sont différents. Fait que c'est un autre élément à pas perdre de vue. On en essayait des choses au centre, là. C'est quand on a acquis Drouin, on a décidé de le mettre au centre. Ouais. Il n'y avait pas d'affaire là.
On voulait des gros joueurs de centre.
Ouais, c'est Gal Chenia qui est un joueur de centre. C'est ça, là. On en voulait un.
C'est là qu'on se rend compte que, tu sais, t'as beau dire le repêchage, on repêche pour développer dans ce qui s'en vient. Mais excusez-moi, là, on sait pas ce qui va être là dans 3 ans. Il y a personne qui avait planifié une pandémie. Il y a personne qui avait planifié le plafond salarial qui serait comme ça à 81,5 pour 2, 3, 4 ans. Fait que donc, il faut que tu repêches pour un petit peu plus pour l'immédiat et un petit peu moins pour le moyen et long terme, là.
Bon, les gars, les deux dernières questions. On pourrait faire 2 shows complets là-dessus, mais étant donné qu'on est en fin d'émission, je demanderais de demeurer discipliné, quand même répondre aux questions du public. Jean-François Coude qui nous demande, est-ce que vous pensez que le poste de Claude Julien pourrait être en danger?
Je laisse répondre les autres.
Oui. Ben, tu sais, j'ai dit non depuis le début de l'année. Là, je commence à en douter. Je pense que les prochains matchs... Non, mais je pense que les prochains matchs à l'étranger sont cruciaux. Il faut que le Canadien sorte gagnant. Du petit séjour là qui s'en vient. Je pense pas que ça va arriver là, dans les 3 prochains matchs, mais après ça, il y a une pause de 2 matchs quand même où ils vont revenir. Une pause de 2 jours où ils vont revenir à Montréal. Il faudrait pas qu'il y ait une séquence de 5 défaites de suite. Là.
D'accord.
Je pense qu'après les 2 qu'il y a eu de 8 l'année dernière, ça serait comme pas tout à fait approprié. Mais je continue de croire que c'est difficile de remplacer un coach cette année. Oubliez pas le coach va devoir rentrer dans la bulle. Tu seras pas là pour plusieurs jours. On remarque que tous les clubs sont patients présentement avec leur coach. Ils veulent pas en payer 2 en même temps non plus. Donc, j'ai l'impression que la corde va être un petit peu plus longue que dans une saison normale.
Ouais. Écoute, au moins, on a un assistant entraîneur qui a fait le travail un peu l'année passée dans la bulle. Donc, il a une idée. Non, mais au moins, on a quelqu'un, tu sais, temporairement.
Kurt
Muller, c'est pas un entraîneur qui a eu beaucoup de succès dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef. C'est lui le responsable
finir l'année.
Ça va pas super bien.
Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît, les boys? Excusez-moi, Simon-Olivier, je te coupe, je suis désolé.
Vas-y.
Moi, là, sincèrement, là, arrêtez, là. Il faut pas paniquer avec ça, là. Je pense que là, le problème, là, se trouve entre les deux oreilles d'à peu près tous les joueurs qui sont là. Le coach est là pour faire des X, des O, puis dire aux gars, vous êtes des pots. On a rassemblé, Marc Bergevin a rassemblé un bon club de hockey, puis disait à tout le monde, allez-y, jouez, vous êtes capables. Là, après, si eux arrivent pas à trouver la bonne présence mentale pour faire en sorte de bien exécuter, moi, tu sais, puis je sais pas qu'est-ce qu'on veut de Claude Julien. On veut-tu qu'il sorte publiquement, qu'il fasse comme exemple. Puis là, je reviens avec Tortorella. On n'avait pas parlé.
Le segment Tortorella, oui.
Tortorella qui dit, après la défaite des siens 4-2 face à Nashville samedi, dit, parlant de son premier trio, Lainé, Roslovic puis Atkinson, dit « It sucks ». Tu sais, écoute bien, là, ouais. Mais tu veux savoir ça? Non. Tu veux que ça se règle à l'interne, puis les gars vont trouver des solutions.
Je te dis, si Canadien manque les séries cette année, là, ça va être catastrophique, là, je veux dire.
Marc Bergevin
a mis la barre très haute, Jérémy. Je veux dire, Marc Bergevin, c'est clair, au début de l'année, là, son ambition, c'est pas de finir quatrième.
T'as raison.
Puis je veux dire, si je rends compte que l'équipe coule, tu sais, un moment donné.
Son ambition, c'est de faire partie des séries, Alex.
Il a pas dit ça cette année.
Non, il va faire partie des séries. Puis je pense que c'est un club qui va être bon d'un playoff, là, d'un série. Mais attendez, là, c'est un long processus, là. C'est un long processus court, vous allez me dire, une saison de 56 matchs, mais ça va se replacer, là.
Non, mais je te dis, les deux séquences de 8 défaites de l'année passée, puis ce qu'on est en train de vivre présentement, ils sont mieux de se replacer. Ils sont mieux parce qu'une autre semaine de même, là, la chaise, là, va commencer à être chaude.
Ah, clairement, je suis d'accord.
Mais la différence avec l'an passé, c'est, tu sais, l'an passé, moi, j'ai toujours été un défenseur de Julien parce que ce que je me disais, c'était, ben, il n'y a pas une bonne équipe entre les uns. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite.
Absolument.
À faire des miracles avec faire une bonne recette avec des mauvais ingrédients.
Très d'accord avec
ça,
toi.
À un moment donné, on arrive au bout de ça. Cette année, j'ai un peu l'impression qu'on aurait eu une perception différente. Le Canadien avait mal commencé et là, se replaçait parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux venus. C'est pas facile faire jouer des nouveaux joueurs ensemble. En plus, avec un court camp, tout ça. Fait qu'on aurait comme compris, si on veut, si le Canadien avait un peu, si ça avait été un peu tout croche en commençant puis que tranquillement, la cohésion s'est installée. Là, tout fonctionnait. C'était magique. On marquait des buts à profusion, on marquait en désavantage numérique, les gardiens. Tout marchait. Et là, présentement, ça marche pas. Puis je pense que c'est un test important, oui, pour les joueurs, pour qu'ils sentent les deux oreilles. Mais là, c'est un bon test pour Julien. Parce qu'il y a les joueurs pour jouer devant lui. Puis là, il n'y a plus le choix. Faut que ça marche. Bon, fait que, effectivement, je pense que pour une première fois, peut-être, là, ça pourrait commencer à chauffer de son côté.
OK. On passe au dernier sujet. Encore une fois, un sujet qui pourrait mériter une émission complète. Question de Joe 90. Et là, ça a été ajouté par le patron. Le Saguenayen perdu, oui, à Gatineau, c'est ce qu'il nous indique. Est-ce que la stratégie de demander à Carey Price de lever sa clause de non-échange pour le laisser être réclamé au repêchage d'expansion est envisageable ou est-ce qu'il s'agit d'une hérésie?
Hérésie totale. Ça n'arrivera pas. Ça se passera pas. Oubliez ça. Carey Price va finir sa carrière avec le Canadien de Montréal. C'est comme ça. Ça va être comme ça. À moins que lui décide à un moment donné qu'il est tanné et qu'il ne veut plus rien savoir parce qu'il entend tout le monde chialer après lui tout le temps. Mais je ne sais pas. Outre ça, je ne vois pas comment Carey Price peut quitter le Canadien.
Alex?
Moi, je vote pour Jérémy comme président.
Et mon Dieu, que ça marchera pas comme faux.
Écoute, on va revenir à notre histoire de poutine de tantôt, ça sera pas bon. Simon Olivier.
Je suis d'accord avec Alex qui est d'accord avec Jérémy.
Okay. Bon, vous serez des ministres.
Moi, je vais me faire l'avocat du diable, les gars.
Ben oui.
Je suis surpris.
Je pense que si t'es un gars qui est responsable avec ton argent, tu regardes où le plafond s'en va, tu regardes la vérité, là. Est-ce que ce gardien-là fait une différence dans les matchs?
Présentement, non.
Ben, présentement, là, écoute, à un moment donné, présentement, ça fait 2 mois que la saison a commencé.
Présentement, non. Mais ben, moi, va-tu faire une différence pour que le Canadien soit capable d'aller loin dans les séries? La réponse est oui.
Ah oui?
Fait que t'en as besoin.
OK. Ben, c'est vrai qu'il nous l'a montré l'été passé, mais...
Qu'est-ce que tu dis, donc? Répète ça dans l'air à mon oncle. Non. Il l'a montré l'année passée, je pense.
Ben, ouais. OK. Il nous l'a montré. Mais encore là... Les gars,
il reste 3/4 de la saison.
Je comprends qu'il reste 3/4 de la saison, mais c'est correct, là, quand t'es payé 11 millions, là, c'est correct que t'as une mauvaise semaine, mais peut-être 2 semaines, peut-être 3. À un moment donné, ta barouette, là, ah ouais, faut que tu fasses la différence. Puis les mathématiques, là, tu peux pas contourner ça dans le sport. T'as un plafond, t'es obligé de le respecter. T'as pas le choix. Donc, si tu veux garder le noyau de cette équipe-là ensemble et peut-être ajouter un autre morceau, c'est peut-être quelque chose que tu dois considérer. On verra, mais ça va faire beaucoup jaser. Oui.
Le Canadien a la 30e attaque de la Ligue depuis 7 matchs. C'est peu importe, c'est qui le gardien en avant, il marque plus de buts. C'est, en tout cas.
Oui, mais.
Bon, comme tu as dit, on pourrait faire un autre show là-dessus.
Oui. Ouais, non, t'as raison. On pourrait sortir 56 000 points.
Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va revenir un moment donné dans le podcast.
C'est sûr. Bon,
ben, écoutez-nous vendredi.
C'est bon, parfait. OK, les gars, ben, c'est assez pour aujourd'hui. Encore une fois, 51 belles minutes de discussion sur le Canadien et la Ligue nationale. Merci beaucoup, les gars, encore une fois, d'avoir été avec nous. Jérémy Rainville du 98.5, Simon-Olivier Larange et Alexandre Pratt de La Presse. Les gars, on se donne rendez-vous à nouveau vendredi pour un autre épisode de Sortie de zone. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Merci aussi à Geoffroy Morin à la mise en onde. Je vous dis bonne semaine et à vendredi.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.